Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale. Pas de développement durable sans les peuples autochtones. Consacré aux droits collectifs des peuples autochtones sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, thème de la 17e session de l'instance permanente des peuples autochtones qui vient de clore ses travaux au siège des Nations Unies à New York. Coup de projecteur avec notre invitée Maria Mualet Mohamed Aboubakrine, la présidente actuelle de l'instance permanente.
Vous savez, les peuples autochtones sont très liés à leurs terres, territoires et ressources naturelles. Ils ne définissent pas les terres ou ne voient pas les terres ou leurs territoires de la même façon que la terre est physiquement considérée ou les territoires comme source de laquelle on peut seulement extirper des ressources ou l'environnement physique dans lequel on vit. Mais pour les peuples autochtones, nous avons une vision plus globale, plus holistique de l'environnement dans lequel nous vivons, de nos territoires. Il y a une certaine symbiose de fait entre nous et nos territoires, si bien que c'est une relation qui dépasse le simple fait de ce qu'on attend des terres, territoires et ressources naturelles. Donc, c'est vraiment une relation assez intrinsèque.
Concrètement, ça veut dire quoi, en fait? Quand vous avez une relation différente, ça veut dire qu'on ne croit pas à une ligne de démarcation d'un territoire vers l'autre? Ça veut dire quoi?
Alors maintenant, si nous revenons à la différence, par exemple, je vais aller d'un cas très simple. Pour nous, le peuple Touareg, il n'y a pas de limite territoriale pour nous. On a un espace dans lequel, comme les gens pensent, nous errons. Mais nous n'irons pas, nous allons, nous revenons selon des cycles bien déterminés et selon des cycles qui protègent l'environnement. Nous ne voulons pas épuiser les ressources des différentes parties où nous vivons, ce qui détermine notre mobilité. Mais juste pour revenir à l'historique, parce que je définissais d'abord notre relation avec l'environnement, puis là je vais revenir à toutes les convoitises qu'ont eu les territoires autochtones par la suite. Donc dans tous les cas, il y a eu des colonisations de nos territoires, que ce soit dans les cas, par exemple, des pays anglo-saxons comme le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, où c'est une colonisation qui s'est installée de façon définitive, ou d'autres États comme ceux de l'Afrique, par exemple, où les colons sont répartis. Mais cela a eu des impacts indélébiles sur nos terres, territoires et ressources naturelles. Que ce soit dans notre relation avec nos terres, parce qu'il y a eu une influence étrangère, une nouvelle vision sur, comme vous l'avez annoncé plus tôt, sur la démarcation, la délimitation des terres, la définition d'espaces nouveaux qui ne respectent pas forcément nos façons de voir les espaces, parce que chez nous, l'espace ne se possède pas. On ne peut pas dire ça, c'est mon territoire. C'est quelque chose qui appartient à la collectivité et non à l'individu. Donc, ce sont des éléments très importants. Et pourquoi on a donné une attention particulière lors de cette 17e session à cette question de terre, territoire et ressources naturelles, c'est qu'on a remarqué que, étant donné, comme je l'avais dit dans l'introduction, notre relation avec nos terres, territoires et ressources naturelles, tout ce qui enfreint nos droits collectifs à nos terres, territoires et ressources naturelles va entacher quelque part notre bien-être de façon générale.
Alors, quelles sont les approches prônées que souhaiteriez-vous voir justement quand vous revendiquiez des droits collectifs par rapport au territoire et aux ressources? Ça veut dire quoi? Comment ça se traduirait?
Alors, ça se traduirait par une reconnaissance de nos terres et territoires ressources comme étant nos propriétés, qu'il y ait une certaine consultation des peuples autochtones, le respect du consentement préalable libre et éclairé sur nos terres, territoires et ressources naturelles. qu'il y ait un respect de nos modes de vie sur nos terres, territoires, un respect de nos modes de vie parce que des fois, nos modes de vie ne sont pas tenus en compte quant à l'établissement d'un projet, que ce soit un projet d'infrastructure ou pour la mise en place de parcs de conservation ou pour des activités d'extraction minière. Donc, nous voudrions que dans toutes ces situations, que nous soyons consultés et que nos droits territoriaux soient respectés. Alors, on verra ça par l'adoption de politiques. Nous avons de bons instruments juridiques. Nous avons la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous avons la Convention 169 du Bureau international du travail et bien d'autres instruments internationaux qui reconnaissent clairement les droits des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources naturelles. Nous voudrions que ces instruments-là ne soient pas au stade d'adoption générale, mais qu'ils soient traduits au niveau national et local en politique et que ces politiques soient mises en œuvre en collaboration avec les peuples autochtones.
Et comment gérer les intérêts de conflit justement entre les sociétés privées, la tendance à protéger les ressources naturelles, l'utilisation différente des ressources naturelles des uns et des autres?
Alors ça, c'est une bonne question et justement, on a souvent entendu que les peuples autochtones posent des barrières ou s'opposent au développement. Ce n'est pas là la question. Nous voulons un développement. Nous ne sommes pas contre l'extraction ou l'utilisation raisonnable et respectueuse de nos façons d'être et respectueuse de l'environnement parce que nous sommes les meilleurs gardiens de l'environnement. Plusieurs études montrent cela. Là où il subsiste encore une certaine sauvegarde de la biodiversité, c'est dans les territoires autochtones. Donc, nous voudrions une certaine harmonie dans le développement. Nous voulons un développement réfléchi, un développement discuté entre les peuples autochtones et les autres acteurs qu'on nous voit en tant que des peuples, des personnes capables de prendre des décisions pour nous-mêmes. Donc, une certaine autodétermination dans la gestion de nos terres, territoires et ressources naturelles pour le bien-être de toute l'humanité.
Oui, parce qu'en fait, vous parlez du fait que là où il y a le plus de diversité, ce sont en fait les territoires où persistent les traditions autochtones.
Oui.
À quoi attribuez-vous justement cette capacité à préserver les ressources naturelles, le territoire, l'équilibre naturel?
Alors, c'est nos comportements, nos valeurs qui sont respectueuses de l'environnement, qui vont vers la solidarité, la conservation pour les générations futures. Nous avons la responsabilité parce que nous ne pensons pas à aujourd'hui, nous ne pensons pas à nous seulement, nous pensons au lendemain et nous ne gaspillons pas. Nous avons une certaine sobriété, donc nous utilisons le peu dont nous avons besoin. Et à ce titre, j'ai une anecdote de ma grand-mère avec qui je marchais et j'ai, chez nous en Afrique, notamment au Sahel, on utilise des petits bouts de bois, donc des cure-dents pour se brosser les dents. Et donc, il y avait une plante dont j'ai coupé une petite branche et j'ai voulu couper une grande branche quand j'étais enfant. Et elle me disait, mais il faut juste en couper ce qu'il te faut. Mais j'ai dit, il n'y a personne qui va l'utiliser. On est au milieu de nulle part. Elle m'a dit, il faut toujours laisser. Il y a toujours des gens qui viendront après. Utilise juste ce dont tu as besoin. Donc ça témoigne. Ce n'est pas seulement chez nous que j'ai vu ce comportement de l'utilisation sobre des ressources. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation de biodiversité. Et nous avons aussi développé des connaissances millénaires desquelles se sont inspirés les scientifiques d'aujourd'hui sur la préservation de l'environnement. Nous avons été très proches de l'environnement et c'est démontré. Seulement, nous n'avons pas beaucoup écrit là-dessus.
Que lors de ces travaux, vous avez pu échanger avec les États membres ou pas du tout? Est-ce que les États membres sont réceptifs justement à mettre en exercice les dispositifs qui existent?
Alors effectivement, l'organisation de nos travaux et ce qui est nouveau cette année, nous avons eu des dialogues. Déjà, comme les années précédentes, on a eu des dialogues avec les représentants des peuples autochtones, les représentants des États membres et ceux des organes, programmes et fonds des Nations Unies. Donc, en plus de cela, nous avons eu des dialogues régionaux, donc juste l'Afrique, juste l'Arctique et les pays de l'Asie du Sud-Est, etc., etc. Et durant ces dialogues, nous sommes assis avec les États membres et nous avons discuté avec eux. Nous avons mis sur la table les points qui freinent et nous avons discuté des possibilités. Ils ont partagé les avancées sur leurs différentes régions, leurs pays, mais nous avons aussi mis sur la table et ils ont aussi entendu les plaintes des peuples autochtones qui sont venus. Donc, nous avons formulé des recommandations par rapport à cela et j'espère que l'année prochaine, à la 18e session, nous viendrons avec un suivi de ces recommandations, avec des accomplissements dans ce domaine.
Justement, vous mentionnez la 18e session. Vous avez été élu pour votre deuxième présidence et demie à la tête donc de l'instance permanente. Qu'espérez-vous voir au cours de cette prochaine année? Vous dites avoir des accomplissements. Ça se traduirait en quoi concrètement?
Alors, si nous revenons au thème principal de la session, qui est nos droits collectifs aux terres, territoires et ressources naturelles, je verrais par exemple de façon plus concrète plus d'États qui ont des politiques nationales en faveur de ces droits-là que je viens de mentionner, plus d'applications concrètes de ces politiques. Par exemple, s'il y a un cas qui est porté à une cour, que des décisions favorables aux peuples autochtones soient prononcées et qu'elles soient appliquées, que cela ne reste pas au stade de projet de politique ou au projet de décision prononcée sans une mise en œuvre effective. Par exemple, maintenant, si je vais dans d'autres cas, on a des recommandations encore plus précises. Et par exemple, nous avons l'année internationale des langues autochtones qui va commencer le 1er janvier 2019. Donc, une de nos recommandations, c'est que cette année soit célébrée partout et dans tous les espaces du monde, à toutes les bonnes occasions. Donc, les festivals régionaux, sous-régionaux, les rencontres internationales, qu'il y ait une mention des langues autochtones et que les régions se préparent de façon assez engagé pour cette année internationale. Donc, dans le suivi, on a une section dans notre agenda pour le suivi des recommandations et on verra les résultats qui vont être présentés et ce sont ces résultats qui nous permettront de juger si nos recommandations ont été mises en œuvre et quel en a été le succès.
Il y a des bons élèves au niveau des États par rapport à la défense justement des droits des peuples autochtones et de ces mises en œuvre de ces politiques?
C'est sûr que les États ne sont pas au même niveau, que ce soit dans la reconnaissance des peuples autochtones, que dans les dialogues avec les peuples autochtones, c'est très varié. Les niveaux sont du plus haut au plus bas, mais je n'aimerais pas citer un État plus qu'un autre parce qu'il y a beaucoup de bons et puis il y a encore des très mauvais.
Et une dernière question. Alors, vous mentionnez que 2019 sera l'année internationale des langues autochtones. Je vais vous demander de nous dire combien il y a de langues autochtones et si vous pouvez nous dire un message dans votre propre langue.
Alors, il y a beaucoup de langues autochtones. Moi, je ne me fie pas beaucoup aux statistiques qui sont données. Je les situerais entre 5 000 à 6 000 et quelques 6 500, sans être sûre parce que je n'ai pas les statistiques en tête, mais ce n'est pas en deçà de ce que je vous ai dit et c'est très varié. Et comme je vous avais dit, nos langues, c'est le moyen de survie de nos cultures, de nos savoirs et ça contribue à la diversité mondiale, que ce soit la diversité culturelle, mais juste la diversité biologique. Alors, dans ma langue, j'aimerais dire beaucoup plus qu'un mot.
Allez-y.
Mais étant donné le temps qui nous est imparti, j'ai juste une minute, je vais dire « Hula qawanin fuknawen kaltamashak shittamashak tanummert ».
Ça veut dire ?
Je salue tous les Touaregs, au féminin et au masculin, parce que ma langue est très riche en grammaire. Et je vous remercie, vous.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est avec les paroles de Myriam Ouellet, Mohamed Aboubakrine, que se referme cette édition d'Escale. Pas de développement durable sans les peuples autochtones. Escale, un magazine hebdomadaire de Nu Info, présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.